Voilà.
Allez, c'est bon.
Bien, mais on a déjà un peu de retard, donc on ne va pas trop tarder parce que la journée va être ponctuée par pas mal de Zoom. Et on a des rendez-vous précis, en particulier avec un rendez-vous au Japon où, pour eux, ça sera déjà le début de soirée largement. Voilà, donc on va essayer de se mettre en route autour de deux comptes aujourd'hui, des gourmands, voilà, qui sont classés dans la même typologie, donc la TU 510 A. Et B. Voilà, et on va donc aborder donc Cendrillon dans un premier temps, Podane si on a le temps dans un deuxième temps. Ça va être compliqué peut-être d'aller dans le détail des deux, mais on va essayer de comprendre un petit peu ce que nous racontent ces contes sur le plan justement du féminin, mais pas que, du masculin aussi. On est toujours dans les genres de façon très, très multiple. Donc cet après-midi, ben, je pense que Loïse nous parlera plus du côté masculin, parce qu'il y a travaillé dessus plus que moi. Moi, je veux parler surtout du côté féminin aujourd'hui. Hein. Donc, Cendrillon, c'est plus de 1000 versions recensées aujourd'hui hein, dans le monde. Donc, c'est un conte qui est extrêmement répandu, diffusé. Donc, vraiment, dans des centaines de versions, des milliers de versions. Il y a toute une aventure, toute une histoire depuis le 9e siècle, la version la plus. L'ancienne qu'on connaît, c'est 9e siècle en Chine. Donc, c'est vraiment un conte qui est déjà recensé dans une version très précise. On verra si on peut en parler ou pas. Et puis, des quantités d'études depuis la fin du 19e. Je ne vais pas tous les citer, je les mettrai en ligne après, toutes ces études-là. Mais vraiment, il y a un travail régulier qui se fait quasi toutes les décennies sur des comparatifs de Cendrillon. Donc, je pense que ce n'est pas pour rien qu'il est aussi présent, ce conte-là. On va essayer de voir pourquoi. Donc, il est aussi en lien avec d'autres types. Hein. Pour beaucoup de chercheurs, le problème de ce conte-là, c'est qu'il fait partie d'un cycle très, très particulier. Voilà, donc, qui va rejoindre des motifs qu'on a déjà vus avec la fille aux mains coupées, hein, le 706. Voilà, qui va rejoindre aussi le 511, qui est donc l'oiseau de vérité pour ceux qui connaissent. Voilà, qui va le 480. Donc, il y a vraiment tout un réseau de motifs qui circulent, voilà, qui fait de ce conte-là un peu un conte pivot, on va dire, de tout un cycle, hein, en tant que tel. Et je pense que c'est pas pour rien que donc les chercheurs ont beaucoup travaillé sur ce conte-là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce conte-là? Donc, moi, je vais peut-être pas partir de Perrault parce que je pense que tout le monde le connaît plus ou moins, la version de Perrault. On nous l'a dit, redit et raconté. Mais je vais partir d'une version grecque, hein, qui était beaucoup plus hard, on va dire, hein, puisque c'est une version qui passe par un thème qu'on va retrouver dans pas de bonne autre version aussi, où c'est les filles qui tuent leur mère. Et c'est pas. Ouais, et donc, c'est vraiment comme dans la version de Basile d'ailleurs, hein, où c'est aussi la fille qui tue leur mère. Mais je pense que dans ce contexte, il y a deux motifs qui reviennent de façon systématique et qu'il va falloir garder nous en tête. C'est la cendre. Il y a toujours cette relation à la cendre en tant que telle. Donc le foyer basique qui nous ramène à une figure de la mythologie qui est Hestia, donc la déesse du foyer, celle qui est en permanence dans cette garde. Et le deuxième motif, c'est la pantoufle, qu'on va retrouver un petit peu partout, dans toutes les versions. Voilà. Donc, pas inintéressant de bien repartir ces éléments-là. Hein. Donc, c'est une vieille histoire. L'histoire des pantoufles, c'est une très vieille histoire, hein, puisqu'on la retrouve déjà chez Strabon, donc avant Jésus-Christ, hein, 60 avant, 20 après Strabon, voilà, où il nous raconte la légende d'une jeune fille il y a un aigle qui lui prend une chaussure, qui va l'amener et qui la laisse tomber dans les plis d'un roi qui est en train de rendre justice. Hein, et donc, à partir de là, le roi va chercher. À tout prix, à qui appartient cette fameuse pantoufle, cette fameuse chaussure, il va finir par la trouver, l'épouse, et au décès de cette femme, il va en construire une pyramide. Voilà, donc ce thème-là, on voit que déjà, il est relativement ancien, hein, il est très, 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 très important dans toutes ces ordres-là. Donc oui, ça a été repris des multiples fois. Hein, donc cette fameuse pantoufle, on va la retrouver chez Bettelheim, hein, voilà, qui lui-même, bien sûr, pose la pantoufle comme étant un lieu en relation sexuelle. Hein, donc, on va essayer de l'analyser petit à petit. Le motif de la cendre, pareil, il est tout autant là. Il y a le mot de cendre, cendrillon, cendrouse, chatte de cendre, fuseau de cendre. On s'aperçoit que tous les motifs vont poser cette problématique de la cendre. Et la cendre, ce n'est pas gratuit non plus. C'est vraiment un élément qu'on va retrouver dans quantité de rituels. On le retrouve même dans la Bible. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup de rituels qui sont posés en tant qu'éléments qui sont des lieux de purification, mais de mise en lien aussi avec, avec l'autre monde, hein, avec de cet ordre-là. Voilà. Donc, je ne vais pas reprendre tout le détail parce que le temps nous manquerait, mais je vais essayer de rentrer dans cette version grecque qui s'appelle la chatte de cendre, hein, donc, qui est très particulière. Et là, je vais essayer, on va essayer peut-être essayer de faire ce qu'on appelle pour moi dans les formations, j'aime bien ça, les lectures lentes. C'est-à-dire de ne pas passer trop vite sur la parole. Donc, le conteur, lui, bien sûr, il cherche à vous atteindre sans vous expliquer les choses. Hein, mais lui, il a fait le travail avant. Donc, il sait à peu près de quoi il cause. Hein, voilà. Donc, là, on nous dit qu'il était une fois une vieille femme qui avait trois filles. Donc, déjà, une vieille femme, ce n'est pas gratuit. On aurait pu dire qu'il y a une femme qui avait trois filles. Donc, c'est quoi cette notion de vieillesse, hein? Et pour moi, cette notion de vieillesse, déjà d'emblée, elle nous pose une question de cycle du féminin. Donc, une vieille femme, hein, en tant que telle, ce n'est pas une jeune femme. Et là, on nous dit qu'il y a le roi qui va bannir du royaume toute lumière. Intéressant. Vieille femme, extinction des feux. On est vraiment sur l'espace. Et la vieille amène ses trois filles dans un puits sec. L'eau en tant qu'élément de fertilité, puis hein, un élément de relation à la profondeur. Donc, on est vraiment sur des espaces où déjà en trois phrases, on nous pose déjà des clés de lecture de ce conte-là qui ne sont pas n'importe lesquelles. Hein. Elle s'installe pour filer la laine. Donc, on retrouve le travail des parcs. Hein, c'est comment on va filer la vie quand on n'a plus d'eau, on n'a plus de lumière et qu'on n'a qu'une vieille femme avec trois jeunes filles. Voilà. Donc, en quelques mots, moi, c'est ça que je trouve dans l'intelligence des contes, c'est le merveilleux va nous pousser d'emblée, mais on va souvent très vite. Pour nous, c'est une lumière, ça passe à une vitesse tellement folle qu'on n'a pas le temps de s'accrocher dessus. Mais quand on le réécoute 200 ou 300 fois dans sa vie, c'est évident qu'il y a un autre travail qui se met en place. Parce que le motif qui nous va travailler, on va le trouver en résonance et on va voir comment il va devenir un objet vraiment de travail intérieur. Voilà. Donc, bien sûr, il y a quelque chose, et il commence à manquer de nourriture, hein, en plus. Et il y a un jeu qui se met en place. C'est la première qui fera tomber son fuseau sera mangée. Intéressant. Hein, donc, c'est pas rien. Donc, laisser tomber son fuseau. On a déjà vu avec Cendrillon la symbolique du fuseau. Hein, donc, l'extinction en même temps. Donc, on est avec la ménopause, on est avec plein de choses. Hein. La première qui laissera tomber sa fertilité, en gros, derrière. Hein. Voilà. Donc, les choses sont voilées, mais elles sont dites en tant que telles. Hein. Donc, voilà que, bien sûr, la vieille renversa son fuseau. Mais la première fois, les filles disent, bon, tu es notre mère, donc on va laisser une chance. Hein, et on recommence le jeu. Voilà. Et donc là, on recommence le jeu, et bien sûr, la deuxième fois, elle tombe aussi son fuseau. Deuxième fois, on va t'épargner. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais la troisième fois, par contre, on la fait cuire. Ça veut leur rappeler quelque chose. Hein. Faire cuire sa grand-mère, ça veut dire quelque chose. Dans le petit chaperon rouge. Hein. Donc, on est vraiment aussi dans quelque chose qui va être très important dans ce conte-là. Pour moi, ce conte, il a quelque chose d'essentiel, c'est la transmission entre les femmes. Hein, c'est comment les femmes se transmettent être femmes. Hein, on va retrouver Simone de Beauvoir avec... Une femme n'est pas femme, elle devient femme. Voilà, mais des gens comme François Flahault, par exemple, nous dit que pour devenir femme, il faut que la mère puisse transmettre et qu'elle accepte de laisser la place. Ce qui n'est pas toujours si simple. Hein. Voilà. Et donc là, bien sûr, la mère va être mangée par les filles, donc, sauf une, la plus jeune, qui ne veut pas la manger, mais elle fait semblant quand même. Elle fait semblant parce qu'elle a caché des fèves dans son corsage, peu importe. Et elle mange les fèves. Alors, pour vous, les fèves, c'est quoi? C'est un légume qui fait gonfler le ventre. Donc, déjà, on n'est pas non plus dans un espace neutre. Voilà, même des éléments de ces images-là sont pas rien, hein, elles nous posent déjà des clés en tant que telles. Hein. Et donc, elle va ramasser, bien sûr, tous les petits os de sa mère, pas tous les gros os, hein, les petits os, qu'elle va enterrer et elle va respecter le deuil pendant 40 jours. Donc, en faisant en mettant de l'encens. Hein. Donc, pareil, cette notion, on en parlait avec Jean de Monseigneur Foy, de relier le monde dessous, le monde dessus. On enterre, l'encens fait remonter. Donc, il y a vraiment cette relation verticale qui se fait entre le monde souterrain et le monde céleste, hein, comme dans tous les rituels qu'on connaît bien. Voilà, donc maintenant, voyons voir ce que. Donc, 40 jours plus tard, elle va voir ce qui s'est passé. Et bien sûr, comme dans beaucoup de versions, les os ne sont plus des os, ça devient des vêtements, ça devient des bijoux, ça devient tout un élément qui va permettre de séduire, hein, en tant que tel. On est vraiment aussi sur le côté de ce qui va être le changement d'identité qui est en jeu à ce moment-là. Mais une fois de plus, c'est comment la mère, qui n'a pas fait son travail de transmission avant, va le faire dans l'invisible, au travers de ce qui reste d'elle, les os, en tant que tel. Hein. Donc la mémoire, on peut le poser en tant que tel. Hein. Voilà. Donc là, les sœurs ne sont pas négatives, hein, parce que quelque part, les sœurs vont aller à la messe. Elle l'invite à aller avec, mais elle ne veut pas y aller. Elle ne veut pas aller à la messe, hein, systématiquement. Donc là, bien sûr, il y a aussi le refus de l'Église en tant que telle. Hein. L'Église qui est, on va le voir plus tard, parce que ça va faire trois fois cet espace-là, c'est, pour elle, la relation à l'invisible ne passe pas par le religieux. D'accord? C'est encore autre chose. Cet espace-là, elle nous le dit clairement dans la suite. Hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand les filles s'en vont, elles se roulent dans la cendre avant de se laver et de se faire coquette. Intéressant. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'elles auraient très bien pu ne pas se rouler dans la cendre, aller de suite laver et se faire coquette. Donc, on est vraiment dans ce rituel du lien. La cendre, qui est souvent la cendre froide dans les contes de Cendrillon, c'est pas le foyer allumé qui est en jeu. On sent très bien que c'est un rituel de relation, de mémoire, avec ce qui reste de sa mère, d'une certaine façon. Donc, elle se met dans ce rituel, puis elle va se laver, elle se fait coquette, elle va à l'église. Elle va à l'église, donc elle va rentrer dans un. Oui, pour elle, l'église est un refuge du religieux, mais c'est en même temps un lieu du social. Et dans beaucoup de contes, on a cet espace, le bal, l'église, c'est le lieu d'une représentation, ce lieu où on a une identité possible. Là où on peut être reconnu par en tant que tel. Hein. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer, bien sûr, et le roi se demande bien qu'est-ce qui est cette belle personne qui est là, que personne ne reconnaît. Hein. Voilà. Mais dès que la messe est finie, elle s'en va, elle rentre chez elle, elle se déshabille et se roule dans la cendre de l'eau. Hein. Donc cette relation à la cendre est toujours là, présente. Hein. C'est pas gratuit non plus. Et donc les sœurs qui arrive, lui disent, tu n'étais pas là, château de sang, dommage, car tu aurais vu une belle jeune femme à l'église, toute vêtue d'or, tu aurais pu la voir. Et elle lui répond, je ne veux pas aller là-bas, dit-elle, vous avez mangé ma mère, qu'irai-je donc voir? Et ça, cette phrase-là est essentielle, pour moi, c'est une des clés du conte. Hein, c'est-à-dire que c'est pas à l'église qu'elle va retrouver sa mère. Elle a besoin, c'est-à-dire qu'elle accepte que sa mère soit morte. Mais quelque part, le deuil, il n'est pas fini. Il y a encore un travail à faire de recréation de quelque chose d'autre. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, le troisième dimanche, qu'est-ce qui se passe? Elle y retourne, hein, comme toutes les autres fois, le même rituel. Voilà. Mais le roi, qui veut savoir qui est cette bonne femme, a trouvé quelque chose. Déjà, il interdit à tout le monde de sortir. Voilà. Et il met du miel à l'entrée de la porte. Et donc, la fameuse cendrillon, la fameuse chape de cendre, en sortant, le miel colle la chaussure et elle te met de laisser une chaussure sur le pas de la porte. Hein. Donc, le miel, déjà. Donc, je peux dire que le miel, au niveau symbolique, vous pouvez y travailler pendant longtemps. Hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre, déjà, de la douceur, mais aussi de l'attachement, du nourrissement. On a vraiment derrière tout le travail des abeilles, donc la relation à la nature qui est en jeu. Et le soulier, bien sûr, hein, qui sera là, qui va être quelque part toute l'ambivalence du soulier. Qu'est-ce qu'elle a laissé à ce moment-là? Hein, parce que le souillé, pour beaucoup de travail d'interprétation, c'est vraiment le sexe féminin quoi, en tant que tel. Hein, voilà. Il y a plein de choses derrière, trouver chaussures à son pied, il y a vraiment tout ce qui est dans là. Et le reste nous le dit plus ou moins. Hein. On est avec une matrice, hein, voilà, l'espace. Voilà. Donc le fameux soulier qui n'est pas de verre ailleurs, mais verreux, bien, dans la transparence, mais aussi dans la rigidité. Ben là, il me dit si quelque part le soulier avait été trop souple, n'importe quelle jeune fille aurait pu rentrer dedans. Il fallait vraiment qu'il soit rigide pour qu'il n'y ait qu'un seul pied qui puisse rentrer dedans. Non, voilà, donc, mais aussi, plus ou moins, cette image, on est plus ou moins un symbole de la virginité perdue. Hein. Il y a quelque chose qui s'est perdu à ce moment-là, de laisser un soulier sur place. Hein. Voilà. Et donc, tout le reste de ce conte-là va plus ou moins nous le confirmer en tant que tel. Hein. Voilà, donc le roi, bien sûr, se met à chercher dans toutes les maisons. Il rentre dans la maison de Châte de Cendre. Donc, il y a ses deux sœurs qui l'ont caché dans un panier renversé. D'accord. Contenant à l'envers, joli ventre. Et en plus, elles disent qu'il ne faut pas qu'ils s'assoient dessus parce que dessous, il y a une foule qui est en train de couver ses poussins. Je vous laisse faire le lien. Hein, mais je pense qu'il y a déjà quelque chose qui s'est passé à la sortie de l'église. Il n'y a pas que la chaussure qui a été laissée en place dans le miel, hein, en tant que tel. Voilà. Donc, bien sûr, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit dessus quand même. Voilà. Et notre chatte de cendre lui pique les fesses avec une grande aiguille. Voilà. Et donc là, il se met en colère. Quoi. Ah, diable, cette poule m'a piqué. Voilà. Donc déjà, pareil, on est dans cette notion de reconnaissance qui va être là, parce qu'il va soulever le panier, bien sûr, retrouver donc la jeune fille, mettre le chaussure et s'apercevoir que c'est bien fait. Voilà. Mais quelque part, pour moi, il y a déjà quelque chose qui s'est mis en place au niveau de la relation et de la grossesse. L'image de la poule en train de couver ses poussins, le panier par-dessus, le ventre, etc. On est déjà dans quelque chose qui est accompli. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, elle fait venir la charrette, une charrette, parce qu'elle veut amener tout ce que sa mère lui a laissé dans la tombe, en fin de compte. Et la charrette est trop petite, elle n'arrive pas à tout prendre. Il y a tellement de choses qu'elle n'arrive pas à tout prendre. Elle en met tout le temps, elle met tout le temps. Donc, intéressant, avec cette mémoire qui est toujours là, cette non-relation assumée, dans cette non-perte aussi, en tant que telle. Hein. Voilà. Et quelque part, elle va au palais, les sœurs vont la voir au palais aussi. Et là, il y a toute une autre histoire qui recommence. On pourrait s'arrêter là pour nous, dans beaucoup de versions. Mais dans beaucoup de versions, il y a la suite. Et cette suite, c'est là qu'on retrouve le 511, donc l'oiseau de vérité. D'accord? Donc les sœurs vont aller là-bas. Le roi, comme dans le 706, part à la guerre. Elle est enceinte et il demande aux sœurs et à une sage-femme de prendre garde à ce qui va se passer. Hein, et bien sûr, elle va avoir d'abord un garçon. Et le garçon, on le met dans une caisse et on l'envoie à la mer. Voilà. En disant qu'elle a accouché d'une chatte. Donc là, pareil, pour moi, il y a vraiment toute la relation, déjà du père qui n'assume pas sa paternité, et de la jeune fille qui a du mal à être mère, qui n'assume pas non plus la première naissance. Hein. Bon. L'enfant est récupéré par un derviche. Donc le derviche, lui, il se nourrit d'une date, tous les jours. Et un jour, il se lève, il trouve une deuxième date. Et en même temps, il trouve la caisse avec l'enfant dedans. Donc, le derviche, si vous prenez le travail de qu'est-ce que c'est qu'un derviche, c'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup sur la relation donc à l'autre monde, au destin, à tout ce qui est la non-limite de la raison. Donc, pour lui, il y a tous les signes sont des choses importantes en tant que tel. Et donc, le derviche va récupérer l'enfant. Donc, on en est là, ouais. Il manque quelque chose. Alors, ça y est, j'ai dû juste inverser une feuille. Donc, après, il y a une petite fille qui est intéressante. Hein, parce que quelque part, là, on retombe dans encore autre chose. C'est-à-dire que le garçon, c'est une chose. Mais transmettre à un garçon quand on est mère ou transmettre à une fille qui elle-même l'a subi, ce n'est pas la même chose. Et la petite fille subit le même sort. Donc, une fois de plus, comme si la maternité une deuxième fois n'était pas assumée, le roi, on ne sait pas où il est, il est parti aussi. Voilà. Et la troisième fois, de nouveau un garçon, même chose. Et pareil, chaque fois le derviche a une date de plus et un paquet de plus qui arrive. Donc il élève les trois enfants, en fin de compte, le derviche. Hein. Jusqu'au jour où le roi, qui est en train de chasser, alors pareil, à chasser, c'est donner la mort, avant tout, hein, en tant que tel, va retrouver les enfants, donc le chef derviche. Et il demande au derviche comment il les a eus, et le derviche raconte. Que chaque fois qu'il y avait une date de plus sur son, il avait quelqu'un qui arrivait, il s'en est occupé. Donc lui ne reconnaît pas ses enfants encore, hein, mais simplement dans une histoire, mais il amène le derviche et les enfants donc, dans le palais. Voilà. Et dans le palais, bah, il faut savoir que sa femme, comme on lui a dit qu'elle a couché le chat, voilà, il a fait attacher sous un évier et tout le monde lui crache dessus. Sort tout à fait intéressant. Hein? Donc l'évier, c'est vraiment là où toutes les eaux usées coulent. Voilà. On est vraiment dans le déni complet en même temps de la maternité, mais des deux côtés, du coup. Hein? Autant sur le plan social que sur le plan de la royauté. Voilà. Et donc là, c'est bizarrement les enfants qui vont reconnaître leur mère. Intéressant symboliquement. C'est-à-dire qu'être reconnu comme mère, il faut que ce soit les enfants qui vous reconnaissent comme mère, d'ailleurs. Il y a un sacré travail à faire là-dessus. Et les enfants qui se mettent à raconter leur histoire, alors que quelque part, ils ne devraient pas la connaître. Donc, ça veut tout dire, hein, au niveau aussi symboliquement. Cette phrase, on pourrait la prendre comme une incohérence du récit. Elle n'est pas du tout incohérente. C'est vraiment aussi tout ce qui a été ressenti par les enfants dans l'absence, etc., qui est raconté. Hein. Il n'y a pas que. Et donc, à partir de là, bien sûr, le roi va faire sortir sa femme. La réhabiller de l'habit royal, alors qu'on ne l'a jamais eu jusque-là, l'habit royal. C'est de l'autre côté là-bas. L'autre porte à l'autre côté, de l'autre gauche. Voilà. Et donc, bien sûr, la sage-femme et les sœurs vont être punies, hein, en tant que telles. Donc on est vraiment sur un conte qui nous dit un cycle en même temps. C'est ça qui est intéressant parce que toutes les versions que vous avez, si vous les prenez un peu dans le détail, suivent à peu près ce même cheminement. Donc c'est vraiment cette notion du changement de statut qui est en jeu. Déjà, on a le statut de la jeune fille, hein, qui n'a pas de transmission de la mère, qui quelque part va rencontrer malgré tout quelqu'un, va prendre une place dans le social, mais est rejetée. Qui n'assume pas son rôle de mère et qui va être plus ou moins réhabilité par ses propres enfants. Et pour moi, Cendrillon, c'est ça. C'est pas une jeune fille maltraitée par ses sœurs, comme souvent on le voit, parce que Perrault nous a complètement. Mais c'est plutôt comment une jeune fille qui n'a plus sa mère, qu'elle-même a tuée parfois, et même souvent dans les versions, va pouvoir s'accomplir en tant que femme si cette mère n'a rien transmis en tant que telle. Donc, sur le plan clinique, justement, il y a beaucoup de femmes qu'on connaît qui sont infertiles, par exemple, pas parce qu'elles ont des problèmes physiologiques, mais parce que, justement, il y a un gros problème de transmission entre femmes et entre la mère et les enfants. Hein. Voilà. Donc, là aussi, il y a vraiment tout un champ derrière qui est posé, qui est extrêmement puissant en tant que tel. Hein. Voilà. Donc, beaucoup de contes ont parlé d'initiation féminine, mais là, il y a aussi le côté masculin qui remonte tout le temps. De paternité non assumée. Hein. Dans beaucoup de contes, on va le retrouver, cet endroit où le père n'assume pas la paternité, systématiquement. Voilà. Donc, sur le plan masculin, il va y avoir des choses un petit peu différentes, mais bon, il y a Luda, donc Luda Schneezer, qui a posé le fait qu'il y avait plus de 200 versions masculines de ce conte-là aussi. Bon, elle donne une hypothèse qui, pour moi, n'est pas tout à fait juste. Elle parle, par contre, de la transmission de l'héritage. Mais je pense que ce n'est pas suffisant pour justifier un conte et sa puissance. Hein. Voilà. Elle dit que justement, à l'époque, quand on avait une marâtre, ce n'est pas elle qui héritait du père, ce n'est pas ses filles non plus, c'était le fils. Voilà, et donc, quelque part, le fils, il fallait le faire disparaître. C'était une façon d'amener ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça, même du côté masculin. C'est-à-dire aussi comment une mère, dans ce cas, va pouvoir transmettre la part masculine si le père n'est plus là. Donc là aussi, il y a vraiment des espaces qui sont extrêmement intéressants et importants. Okay. Voilà, donc pour ce compte-là, donc en quoi ce compte-là, il va être en écho, plus ou moins, donc à la version de Podane, parce qu'on est encore dans autre chose, mais en même temps, des choses qui sont très similaires. Dans les deux cas, on a la disparition d'un des parents. Dans les deux cas, les transmissions féminines vers la jeune fille sont vraiment boiteuses. Dans la version de Perrault et de Grimm, c'est quand même la mère qui demande au père de d'épouser celle qui sera aussi belle qu'elle, voilà, ou celle qui la bague ira. Donc on a vraiment des choses qu'on retrouve d'ailleurs chez Basile dans La fille aux mains coupées, hein, si vous vous rappelez bien. Voilà, donc avec cette notion d'épouser sa fille, épouser sa sœur. C'est vraiment la mère qui provoque l'inceste, d'une certaine façon, en tant que telle, de façon inconsciente, mais c'est quand même qui la génère. Hein, voilà. Et donc, comment la jeune fille va devoir, pareil, faire un cheminement, remplir des épreuves pour, quelque part, assumer, sa féminité, quoi, la reconstruire. Donc, il y a tout un cheminement qui est une galère, voilà, mais qui va permettre, justement, d'aller dans ce sens-là. Voilà. Donc, le Podane, en même temps, il y a cette notion à l'âne, hein, qui n'est pas gratuite, parce que la symbolique de l'âne, c'est quand même quelque chose qui est très fortement ancré dans toutes les traditions, hein. Donc l'âne, c'est déjà sexuellement, c'est une puissance sexuelle. Il est souvent sur tous les bas étages, c'est-à-dire il a fait toutes les tâches les plus archaïques, les plus, mais souvent il était maltraité, hein, en tant que tel. Voilà, et donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre, pour moi, d'une régression extrêmement puissante, cette relation à l'âne. Hein. Voilà. Dans beaucoup de version de Podane, il y a aussi tout un processus de remise en cause de la logique familiale. Si mon père m'épouse, il n'est plus mon père, il est mon beau-père. Donc ma mère devient ma belle-mère, mon frère devient mon beau-frère. Donc ça remet en cause complètement un ordre établi, voilà, qui ne peut pas être vraiment posé. Et cette peau d'âne, elle est pour nous revêtue dans certaines traditions. C'est la fille qui rentre carrément dans l'âne. Donc, on a une version touareg, qui est vraiment très intéressante, où vraiment la jeune fille, elle va se laver les cheveux dans l'écuelle de son frère. Donc, c'est pas rien, parce que les écuelles sont celles que c'est l'écuelle qu'on accroche au cou du chameau, qui sont vraiment un objet extrêmement féminin, qui est tabou pour les femmes. On n'a pas le droit de faire ça. Voilà. Et le frère qui se rend compte de ça va dire, j'épouserai qui? Celle qui a se lavé les cheveux. Que ce soit ma mère ou ma sœur. Et en fin de compte, il découvre que c'est sa sœur. Hein? Donc, on organise le mariage. Ça vous rappelle sûrement Zalgoum aussi, au niveau de... On a vu la dernière fois, hein, sur 706. Voilà. Et donc, il va épouser sa sœur. Donc, le soir des noces, chez les Touaregs, il y a une tradition, on ne consomme pas le mariage pour rester 3 ans, 3 jours sous la tente avant que le mariage soit consommé en tant que tel. Hein. Il n'y a pas de rapport sexuel pendant 3 jours. Voilà. Donc, la jeune fille s'en va, elle se met dans un arbre. Voilà, et là, tous les parents vont essayer de venir la faire descendre. Pas de suite d'ailleurs, parce qu'au début, c'est son frère qui garde les moutons, qui la voit. Et donc, elle va lui faire des tresses. Son frère, alors que c'est strictement interdit, parce que chez les Touaregs, on fait des tresses pour chaque passage d'un âge à un autre. On peut détecter, les enfants sont rasés, et puis au bout d'un moment, au bout de 7 ans, on fait une tresse, 8 ans, 9 ans, 9 ans, et puis après, une fois qu'ils ont 12 ans, on met le voile. Parce que chez les Touaregs, le voile, c'est pas pour la poussière, hein, c'est parce qu'ils craignent les djinns. Voilà, et donc les djinns peuvent rentrer par n'importe quel orifice. Vous verrez toujours un Touareg manger par-dessous le voile. Même s'il est à l'abri du vent, c'est un souci. Donc là, c'est pareil, elle va faire les tresses, donc elle va transgresser un tabou, et c'est à partir de là que les parents vont faire parler le jeune enfant, il va dire où elle est, et donc elle va être dans l'arbre, et les parents vont venir, donc le père essaye, c'est là qu'elle dit, ben, mon père, tu peux pas me dire quoi que ce soit, puisque maintenant t'es mon beau-père, mon frère qui est mon mari. Donc, elle le met en visualisation tout le chaos qui a été posé par rapport à cet acte-là. Et puis, elle se transforme en oiseau. Voilà, et quand elle est transformée en oiseau, on arrive à battre l'arbre et la récupérer. Et là, il y a tout un cycle de régénération. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le père le met d'abord dans sa poche. Elle devient trop grosse si on la met dans un coussin. Donc, oui, déjà, le symbolique, hein, mettre dans sa poche. On revient de nouveau à la semence en tant que telle. Le coussin, c'est les coussins que les époux mettent en place, donc c'est la relation sexuelle, etc. Et à un moment donné, elle s'échappe et elle, là, par contre, elle rentre dans un âne. C'est l'âne qui l'ingère. Et tous les jours, l'âne va chercher de l'eau au puits. Donc, chercher de l'eau au puits, c'est pas rien non plus, symboliquement. C'est la vie, c'est vraiment la fertilité qu'elle va chercher aussi tous les jours. Voilà. Jusqu'au jour où le chef d'une tribu l'aperçoit. Voilà, et donc va l'amener, va arriver à la récupérer. Donc, l'amène avec elle, avec lui. Et là, il y a tout un jeu. Elle dit, regarde bien, alors je ne me rappelle plus exactement, il fallait relire le texte, on n'a pas le temps. Regarde bien ce bijou, tu verras qu'il est beaucoup plus beau que celui de ta mère, tu verras, rends-moi. Donc c'est parce que quelque part, elle est déshabillée. Donc il a repris tous ses vêtements. Et au fur et à mesure, il va poser le fait, elle va poser dans le discours le fait, en fin de compte, que les éléments, il ne faut pas qu'il les regarde comme ceux, ni de sa mère, ni de sa sœur, ni de son. Mais que quelque part, il faut qu'elle soit considérée comme autre chose que tout ça. C'est pas rien, le plan identitaire. Hein, voilà. Et donc lui, il arrive avec et sans qu'il s'en rende compte, à un moment donné, elle tombe sa bague. Voilà, donc lui va aller la chercher. Donc logiquement, pareil, tabou. On n'a pas le droit de toucher au bijou féminin. Et elle en profite pour la récupérer et rentrer dans l'âne. Et donc lui arrive à la tribu en disant, je veux épouser l'ânesse. Voilà, donc on organise le mariage avec l'ânesse en tant que telle. Hein. Voilà, et donc là, le mariage va s'exécuter. Le lendemain des noces, tout le monde rentre dans la tente et là, on s'aperçoit que ce n'est pas une ânesse, que c'est vraiment une très belle jeune femme. Et le père du fameux jeune homme qu'il a épousé veut du coup l'avoir pour femme aussi. Hein, et il va faire en sorte que son fils soit enterré, etc. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette notion aussi de… On inverse un petit peu. Là, ce n'est plus le père qui désire la jeune fille, mais le beau-père. Hein. Mais en tous les cas, on est toujours dans ce cursus où quelque part toute l'organisation sociale est remise en cause par des transgressions. C'est-à-dire quelque part, il n'y a pas que la partie psychique, hein, il y a vraiment toute la partie en même temps sociétale qui est en jeu derrière tous ces comptes-là. Voilà. Donc il y a des milliers de versions, on pourrait y passer 40 jours, même plus. Hein, voilà. Mais en tous les cas, c'est évident que c'est un conte qui est extrêmement riche, hein, en tant que tel. Bon, je sais pas, on peut peut-être rester sur les questions parce que le temps passe vite et après on a d'autres éléments, donc on peut peut-être échanger là-dessus. Donc je vous mettrai en ligne tous les éléments bibliographiques, hein, parce que il y a vraiment, c'est un conte qui est extrêmement riche au niveau de ça, de ce qui a été produit autour, hein, en tant que tel. Bon, je sais pas, pour vous, est-ce que c'est un conte que vous connaissiez comme ça ou pas? Hein, parce que souvent, on le connaît trop, pour moi, mais Perrault en a fait un conte plutôt de mise en valeur des éléments de la cour. Il a mis tout le côté brillant, tout le côté, le fameux bal, etc. Mais dans la plupart des versions, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Ce n'est pas dit. Eh bien oui. Mais oui, non, mais je crois que quelque part, les cons sont là. Ben, oui, mais c'est important, mais il faut que chacun puisse y mettre. Voilà. Il y a au moins 9 mois de différence entre chaque enfant. Voilà, disons 1 an. Voilà, donc le premier a 3 ans, le dernier. Voilà, pour qu'il puisse y vivre sans sa mère, il faut que. Voilà, il y a déjà. Donc il y a des logiques qui se mettent en place, mais qui sont volontairement jamais données dans le conte. Volontairement. C'est ces dynamiques du non-dit qui font quelque part, on se met en travail. Vous voyez ce que je veux dire? Si on commençait à vous donner tout au niveau, ça serait fini. Ça devient de l'information. Pour moi, le conte merveilleux, il est vraiment basé sur le non-dit. cette puissance du non-dit. Ah. Je coupe mon micro chaque fois, c'est ça? On est au sixième, on sera au point. Hein. Tu coupes mon micro, c'est ça? J'ai essayé de l'aborder un petit peu rapidement, mais pour moi, on est vraiment dans une problématique de la transmission. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans être reconnu par dans une identité, sans être dans un groupe. Voilà. Et donc, la défaillance de la transmission, pour moi, elle est au cœur de ce conte-là, que ce soit du côté du masculin ou du féminin.
Bonjour, donc, excusez-nous, on n'entend rien.
La situation dans les quelques versants que moi j'ai pu regarder du côté masculin, c'est la mère qui se trouve à se coltiner de la transmission masculine dans l'absence du père. Donc il va falloir qu'elle construise, qu'elle aide son fils à construire. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas possible du tout. Hein. Ou quand c'est le père, ça ne se passe pas toujours très bien non plus. Donc, on est vraiment tout dans cette relation de la défaillance. Et comment se construit une identité quand on n'a plus de relation en tant que tel. Donc, pour moi, ce compte-là, il est surtout là. Donc, je dirais que oui, il y a quand même une importance. On n'a pas, surtout dans les sociétés traditionnelles, le même façonnement en tant que masculin ou féminin. Parce que les fonctions ne sont pas les mêmes en tant que tel. Donc, le vieux adage anthropologique qui n'est plus valable aujourd'hui, mais qui a traîné pendant très longtemps, c'est que l'homme donne la vie. Donc on était vraiment sur cet espace de fondation, formation. Donc l'homme à la chasse, à la guerre, à la maison, à la maternité. C'était le modèle le plus classique qu'on a retrouvé, qu'on retrouve encore dans beaucoup de sociétés aujourd'hui. Si vous regardez les sociétés du Maghreb encore aujourd'hui, on est encore très très présent dans ce modèle-là. L'enfermement de la femme, la femme dans son sac de foyer, et puis l'homme qui est dans le social. Donc, la fameuse symbolique kabyle, avec la verticale de la femme dans la maison, le pilier vertical de la couche féminine, et que souvent certains s'inquiètent autour de la fertilité, qui va supporter l'horizontalité qui est masculine. Le social, le serpent, le symbole aussi, la fertilité relie les deux, d'une certaine façon. On est très dans ce combat profondément ressentir dans beaucoup de sociétés du Maghreb encore aujourd'hui. Donc pour moi, il y a quand même la différence. Oui, une différence, c'est qu'on n'initie pas à la même identité. C'est ça le problème. Hein. Si on avait à traiter le problème transgenre, ça serait encore beaucoup plus problématique. Le problème masculin, de non-sexualité ou autre. Et ça, c'est le problème, c'est la difficulté de beaucoup de sociétés aussi d'intégrer des choses qui ne collent pas avec les schémas. C'est-à-dire comment on intègre. Donc aujourd'hui, on peut peut-être le faire plus facilement qu'à une époque, mais pendant très 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 longtemps, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Ou alors, c'était conçu comme un espace marginal. C'est-à-dire qu'on pouvait en trouver une place sociétale à la personne, mais dans une marginalité. C'est toute la problématique qu'on a dans les contes qui sont là plus pour dire ce qu'était la norme, d'une certaine façon, mais en même temps, tout en nous parlant de cette fameuse norme sociétale, ça nous parle aussi de la complexité de ces transmissions et de ces constructions. Voilà. Mais non, je pense que ça ne dit pas la même chose.
Est-ce qu'on peut voir aussi, dans ce que tu disais, la construction de l'identité entre les générations? Ça résonne aussi beaucoup aujourd'hui, d'une certaine manière, un refus d'une certaine forme d'identité, de genre. Par exemple, Cendrillon, elle refuse une certaine forme de maternité. On essaie de lui assigner, par exemple. Donc, il y a une tension peut-être entre les générations. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça, sur une transmission qui n'est pas seulement défaillante, mais qui pourrait être refusée?
Oui, alors, ça on va le retrouver très souvent, dans tous les contes aussi, hein, c'est-à-dire les passations d'une personne à une autre. C'est aussi comment, quand on est au milieu de cette passation, on a géré la génération de ses parents, mais on a s'intégré dans une génération qui arrive et qui est souvent en rupture. Hein, donc c'est Contant nous parle de ça aussi. C'est-à-dire que comment des fois la difficulté de transmission, elle vient du fait que il y a eu changement de cap, changement de normes. Voilà, et en même temps, comment ne pas blesser les parents, comment les parents ne blessent pas l'enfant, comment cette espèce d'entre-deux devient une espèce d'endroit très difficile à gérer. On est complètement dedans aujourd'hui. Voilà, et je pense que quelque part, voilà, ce conte-là nous dit aussi, je sais pas pour rien qu'il est, je pense que c'est pas pour rien qu'il est extrêmement encore travaillé. C'est que émotionnellement, il est encore très juste par rapport à ce qui se passe. Voilà. Donc on est encore dans des espaces de rupture. Je suis d'un âge qui me permet de me dire que quelque part, les ados de mon époque, même si on n'a pas connu mai 68, ont peut-être moins eu de problèmes qu'aujourd'hui. Parce que ce qui était touché, c'était le social en 68. C'était une reconnaissance sociale. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance de genre beaucoup plus profonde. Voilà. Donc c'est beaucoup plus difficile encore à gérer. Oui. Non, c'était une représentation, c'était autre chose. Pour moi, 60, oui, peut-être, mais je pense que quelque part, il y avait vraiment une revendication qui était, c'est une première étape, mais qui était une représentation de représentation. C'est-à-dire comment on n'enfermait pas les filles dans la jupe, et voilà, mais en même temps, il y avait bien sûr tout ce qui va avec. Hein, cette conscience, elle est très, très, très lointaine et très, très forte. Hein. Je pense que la revendication, elle existe déjà dès l'Antiquité. Mais disons que 68 a permis de la mettre en exergue. C'est encore autre chose, de mettre quelque chose en route. Mais aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus profond. On est dans une mutation qui est encore beaucoup plus profonde que celle-là. Une question de l'identité sexuelle qui est en jeu. Voilà, et ça va beaucoup plus loin. Hein?
Et parlez fort, s'il vous plaît. Moi, ça me fait écho avec ces changements d'identité qu'on voit aujourd'hui dans ma génération. Comment un conte comme Potane, comme Cendrillon, c'est encore adapté en fait au modèle que recherchent nos jeunes, en fait, ou même nous aujourd'hui, dans le sens où c'est quand même très genré. On a quand même des attributs féminins qui sont des robes, des bijoux, etc. Et ben, aujourd'hui, c'est différent. Donc, quelle adéquation?
Alors, pour moi, une fois de plus, c'est la mécanique du conte en lui-même. C'est-à-dire que quelque part, le conte merveilleux ne nous dit pas, ne donne pas des informations, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les regarder dans une espace, il faut les prendre sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que si on les prend sur le plan émotionnel, on s'aperçoit que l'émotion est toujours la même. Dans les fractures, dans les impossibilités de communication, dans les espaces. Voilà. C'est sûr que si on le prend sur le plan uniquement de l'image sociale, il n'est plus adapté du tout. Et c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, on regarde ces contes-là avec la dimension sociale. Et donc, on n'est plus dans le travail qui, pour moi, est nécessaire pour qu'ils puissent circuler ces contes-là. Il faut dégager. C'est pour ça que si on commence à les réactualiser avec des images sociales, ça devient terrible, parce que quelque part, on en fait des reliquats normatifs qu'on essaye d'imposer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si on les met hors temps, hors lieu, on va toucher la part psychologique de ce que provoque le conte, et on peut encore travailler sur des mises en cohérence, on va dire, émotionnelles. Et c'est là qu'ils ont pour moi leur fonction en tant que telle, parce que on est surnourri d'informations sociales aujourd'hui, on est même saturé complètement. Voilà. Et par contre, ça nous empêche de travailler des cohérences émotionnelles profondes. Ce que je veux dire, on est tellement dans des messages constamment, constamment, qu'on est bloqué sur ce travail intérieur. Pour moi, le conte merveilleux, dans tous les cas, tel que je le perçois, c'est un endroit qui peut rééduquer cet endroit-là. C'est-à-dire vous ramener aussi à aller chercher autre chose que de l'information. Donc,
oui, ce que j'entends là, le premier conte de Cendrillon, c'est la question du deuil. Et qu'on ne peut pas devenir parent sans avoir fait assumer quelque chose de sa mortalité, de sa finitude. Laissez la place. Laissez la place. C'est vraiment quelque chose.
Remets dans le micro, Marc.
Donc, je disais, oui, laisser la place, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est de l'ordre aussi d'assumer le fait qu'on ne sera pas là, quoi. Et que quelque part, qu'est-ce qu'on a transmis pour que l'autre puisse être aussi dans quelque chose qui ne soit pas nous. Donc, il y a vraiment quelque chose de très complexe dans la notion de transmission, hein, qu'on pourrait reprendre à différents niveaux, d'ailleurs, à de multiples niveaux. Et les contes, c'est quasi à 80% leur travail, c'est de faire travailler ça. Le deuil, disparition, intégration dans les chaînes de transmission classiques en même temps, mais il parle très très peu de la transmission et de la place sociale, si vous regardez bien. C'est pas tellement la place sociale qui est en jeu. Hein.
J'ai une question de la part d'une personne. Un motif important aussi, me semble-t-il, c'est la reconnaissance par la société de Cendrillon. Apparaît-elle toujours transformée dans un lieu de sociabilisation, le bal, la messe, dans le village?
Oui, donc ça fait partie de cette phase de la reconnaissance en tant que telle. Hein. Voilà, mais c'est qu'une phase, c'est-à-dire quelque part, c'est évident qu'on ne peut pas se construire sans l'autre. On est bien obligé de passer aussi par le regard de l'autre. Voilà. Mais quelque part, ce n'est qu'un passage pour moi. C'est pas aussi essentiel. C'est important, mais c'est pas là que pour moi se situe vraiment le compte. Hein. Ils ont tout à fait autre chose. Hein.
Sur un autre compte type, la fille en garçon. Et on trouve dans le type Baudane, des filles qui échappent à leur père, mais qui, pour cela, se déguisent. C'est du déguisement où elles prennent la peau d'une bête et vont, après, elles sont embauchées, enfin voilà, elles travaillent et après, il y a tout à fait. Donc, il y a quand même quelques, mais elles ne sont pas très nombreuses, où effectivement, il y a le changement de genre qui est juste présenté. Et sur certaines, alors après j'ai pas cherché, mais sur peut-être certaines versions, des fois il y a des métamorphoses. Bon, quand il y a même pas, bah, ça c'était plutôt dans les récits et bon médiévaux, hein, où il y a des changements de sexe complètement. C'est-à-dire la fille se déguise pour échapper au père, et après bon elle se marie avec une femme, mais pour ça c'est pas possible, donc. Mais miraculeusement, un être ou quelqu'un, Dieu, bon, quand on est un peu plus tard, la transforme en homme, de manière à ce que l'équilibrage se refasse. Quoi. Donc, alors, je ne pense pas qu'il y en ait énormément, mais je ne sais pas, il y a tout un travail qui…
Oui, il y a quelques-uns, mais ça dit encore autre chose. Il y a pas mal de contes qui parlent de ce déguisement, en tous les cas, hein, la fille en garçon. Voilà. Donc là aussi, c'est pareil, c'est comment des fois, dans l'impossibilité de se socialiser en tant que femme, on va se trouver un moyen de le faire. Voilà. C'est ce que redoutait Françoise Héritier. Est-ce que l'avenir des femmes, c'est devenir des hommes? C'était toute la question qu'elle posait dans un séminaire à l'OHSS, quoi. Donc, mais pour moi, ça peut aller jusqu'à cette transformation en tant que telle. Voilà. Mais je pense que là, c'est un autre thème qui est en jeu. On n'est pas dans ce thème-là. Là, on est vraiment dans encore un autre endroit. C'est vraiment des contes aussi très intéressants. Hein, mais il y a très beaux contes des mille et une nuits là-dessus et autres qui sont superbes. Oui?
Marc, est-ce que tu peux juste redonner les références du compte Touareg?
Alors, le compte Touareg, ça s'appelle Téchawa. Alors, comment ça s'écrit? Je ne m'en rappelle plus, mais je vais le trouver. Je vais vous lire ça. Et donc, c'est un compte que vous trouverez dans les Podan Touareg de Dominique Casajus. Dominique Casajus, qui est un anthropologue qui travaille sur les Touaregs. C'est sur la parole des Touaregs depuis 40 ans. Voilà, donc, c'est vraiment quelqu'un qui a fait un gros travail sur le conte et sur le mythe autour des Touaregs. Alors, Téchawa, bien sûr, ça dépend de beaucoup des versions qu'on va utiliser. Ça s'écrit, alors pour Téchawa, ça s'écrit T-E-2-S-H-E-W-A. T-E-2-S-H-E-W-A. Voilà. Il y en a des versions très, très proches qui ont été travaillées par Geneviève Calame-Grillon au Niger aussi. Hein.
Marguerite, tu avais une question.
J'avais une question au niveau des enfants. Dans la mesure où il n'y a pas de transmission, comment peuvent-ils la reconnaître ou se reconnaître en elle?
Je pense que justement, c'est ça qui est intéressant. C'est comme il n'y a pas eu cette transmission, il y a autre chose qui permet de reconnaître. Et le derwish n'est pas pour rien là-dedans. C'est-à-dire que le derwish, il amène à travailler ce qui n'est pas de la raison, ce qui travaille à l'extérieur de la raison. Donc, du coup, ils ont aussi cette sensibilité qui a été développée. Il faudrait travailler sur le symbole de la date, par exemple, comme il faudrait travailler sur le symbole du miel. Voilà, donc, c'est vraiment des fruits, un fruit qui est très particulier. Donc, ça pousse en régime sociétal. On l'isole, c'est vraiment quelque chose qui nourrit, qui a un pouvoir de nourriture extrêmement puissant. Donc tout ça, ces comptes-là, nous, on les perçoit aujourd'hui avec une défaillance sur la lecture symbolique. Je pense que les personnes de l'époque devaient beaucoup mieux ressentir les choses que nous par rapport à tout ça. La derviche, pour nous, ouais, c'est le gars qui tourne en rond là, avec ça. C'est beaucoup plus que ça. Voilà, quand on dit que les contes de Shra, ce sont des contes qui étaient travaillés par les derviches, parce que Shra travaille toujours à la limite de la raison. Et pour eux, c'est ça qu'ils travaillent, c'est comment pour eux la vérité n'est pas dans la raison, mais au-delà de la raison. Donc, ça amène beaucoup de choses au niveau de la pensée. Nous, on est très branchés occidentaux sur le côté très matérialiste et très raison. Depuis les Lumières, on est vraiment branché là-dessus. On est dans une société où la raison, c'est presque l'ennemi. Vous voyez ce que je veux
dire ? Une question en tant que conteur. Là, tous les symboles qui ont été expliqués, c'est très riche. Et il y a peut-être au moins la moitié des symboles qui, aujourd'hui, ont l'air de ne plus être partagés par l'auditoire. Et la question, c'est est-ce que c'est un conte qu'on ne peut plus raconter, ou en tout cas, qu'on peut raconter avec une énorme perte, parce que les gens, ça ne va pas résonner avec le symbolisme partagé, ou est-ce que on peut s'essayer à une traduction symbolique avec les symboles partagés aujourd'hui. Par exemple, le derviche, est-ce qu'on garde le derviche? Est-ce qu'une manière de continuer à maintenir ce langage symbolique, ce ne serait pas de changer cette figure du derviche en une figure qui aujourd'hui serait plus intuitivement compréhensible par le public et enfin voilà moi cette question qui est un peu difficile pour moi en tant que conteur
et récurrente. notre grosse difficulté c'est que souvent les conteurs eux-mêmes n'ont pas travaillé la symbolique donc du coup ils racontent des choses qu'ils ne comprennent pas. Et ça, au niveau du langage corporel, au niveau mimique, au niveau intensité, ça donne des choses un peu bizarres. Hein, voilà. Ou alors, ils s'empressent de mettre une voiture à la place d'un carrosse. Mais je peux vous dire que symboliquement et dans l'effet que ça fait, ce n'est pas la même chose du tout. Hein, mettez un camion à la place d'une charrette, il n'y a plus d'attraction animale, il n'y a plus de... Voilà, hein. Donc, il faut faire très attention quand on veut changer l'espace du symbolique. Moi, je pense qu'il vaut mieux essayer de trouver la vibration juste, donc de travailler le symbole. Voilà. Et on s'aperçoit que, mine de rien, si on le travaille comme ça, même si on ne comprend pas, ça interroge et ça ouvre quelque chose de la part du symbolique. Et moi, je préfère que le mystère soit derrière que d'avoir des symboles qui décryptent tout et qui, du coup, font de l'information là où on devrait avoir de l'émotion. Voilà. Moi, c'est vraiment ma façon de travailler et je me bats là-dessus parce que je vois comment les contes ont été dénaturés complètement parce que les gens ne comprenaient pas et donc ils ont remplacé par. Ouais.
Désolée, j'ai une dernière remarque après. Je vous laisse la parole.
On passe à une autre intervention. Donc, dans la version de Perrault de Podane, il y a un druide qui arrive à convaincre le père dans son intention d'inceste. Mais qui est ce druide?
Oui. Moi, je dirais qui est le druide en général. Le druide, c'est quand même celui qui est dans la relation entre l'invisible et notre monde. C'est lui qui, quelque part... Alors ça nous amènerait à revenir sur une question énorme, c'est-à-dire comment on entretient une relation avec nos morts, et qui est une relation essentielle pour une question essentielle pour l'humanité. Je veux dire, on a les prêtres, les druides, les derviches, etc. Qu'est-ce qu'ils font en permanence? Essayer de relier l'invisible au visible, l'invisible au concret. Hein, c'est leur boulot. Voilà, donc aujourd'hui, on y revient avec toute cette école de néo-chamanisme, etc. Mais je veux dire, on est encore dans cette question-là, on n'a pas résolu cette question. Pour ceux qui ont des deuils, ils le savent bien. C'est-à-dire qu'on est souvent beaucoup plus proche de ceux qui ont disparu que quand ils étaient vivants. Ils viennent nous habiter beaucoup plus profondément au niveau de la mémoire, au niveau de tout ce qu'on met en relation avec tout ça. Et ça, je pense que dans les sociétés traditionnelles, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Il faut relire tous les revenants. Voilà, donc il y a un répertoire énorme là-dessus aussi. Qui pose en permanence cette question, mais tous les contes merveilleux nous posent la question à l'autre monde. Ça, c'est vraiment ce qu'il dit, c'est Nicole Belmont. C'est-à-dire que c'est vraiment cette question de la relation à l'autre monde qui est vraiment tout le temps là, dans les contes merveilleux, systématiquement.
Donc, une dernière intervention.
Oui, il me semblait que ça serait très grave d'actualiser, parce que justement, la valeur, c'est de nous inscrire dans une temporalité que c'est la question des origines, enfin que beaucoup de choses ont préexisté à notre existence, et que c'est ça l'héritage, c'est un héritage qui vient de loin, et même si on n'en connaît pas tous les tenants, les aboutissants, enfin, qu'il y a une immensité temporelle et aussi géographique, qu'il y a d'autres lieux qui nous sont là, ça nous ouvre à l'extérieur, à ce qui est différent. Je pense que c'est important de garder.
Pour moi,
il y a l'écrasement de la temporalité.
Il y a ça, et en même temps, je pense que c'est un des rares moyens, c'est François Flahou en parle très bien dans ses écrits, voilà, qui nous ramène à une transmission émotionnelle. C'est-à-dire que cette transmission de la nuit des temps, elle n'est pas dans la raison, elle est vraiment dans une transmission d'émotions. Quelque part, on est vraiment dans un processus très particulier, avec les contes merveilleux uniquement, hein, on ne parle pas des autres contes. Hein, mais avec ce conte-là, on sent très bien que l'objectif, ce n'est pas de faire comprendre, de faire vivre quelque chose. Hein. Mais ça veut dire que le conteur, il faut qu'il se le coltine aussi, ce travail-là. Et ce n'est pas si simple. Hein.
Merci. Nous allons accueillir maintenant Karine Mazet.